La quotidienne de Transistor, c'est maintenant l'aime éco-produit une fois par mois avec les petits débrouillards Grand Ouest à propos de notre adaptation au changement climatique. Le Haut Conseil breton pour le climat est avec nous aujourd'hui.
L'aime, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts. Au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui s'adapte aux changements qui touchent le Finistère comme le reste de la planète. Les changements climatiques, dérèglements climatiques dit-on aussi. On en parle au moins une fois par mois dans cette émission. Les petits débrouillards Grand Ouest sont là pour nous aider puisque c'est une association d'éducation populaire qui vulgarise les sciences en général. Et là en particulier, donc, ils transmettent les bonnes pratiques pour s'adapter au mieux aux changements climatiques, y faire face, éviter les maladaptations aussi. Et aujourd'hui, on reçoit carrément l'instance qui chapeaute la question en Bretagne, du point de vue scientifique en tout cas, le Haut Conseil breton pour le climat. Qui parle de climat en général, hein, pas seulement d'adaptation. Il est représenté par Anne-Marie Trier, qui co-préside ce Haut Conseil avec Vincent Dubreuil. Pour les petits débrouillards, c'est la référente du Sud Finistère qui est là, Geneviève Canivin. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Anne-Marie Trier, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Haut Conseil breton pour le climat, HCBC?
Alors, notre conseil est un groupe de scientifiques, on est 20. On est donc des hommes, des femmes et de toutes sortes de disciplines. Alors parfois, quand on pense la science pour le changement climatique, on pense d'abord les spécialistes de l'atmosphère ou les spécialistes de l'océan. Mais en fait, quand on pense qu'il faut s'adapter au changement climatique ou qu'il faut lutter contre le changement climatique, ça concerne tous les aspects de la société. Et c'est pour ça qu'au sein de notre conseil, on a une sociologue, on a un spécialiste des sciences politiques, on a un psychologue social, on a aussi une spécialiste de la santé, une juriste, enfin voilà.
Donc, Vincent Dubreuil, votre coprésident, il est géographe d'ailleurs.
Voilà. D'ailleurs, voilà.
Ouais. Et vous êtes océanographe physicienne, c'est ça?
Voilà.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire être océanographe physicienne? Il y a des océanographes pas physiciens, c'est ça?
Alors, il y a des océanographes biologistes qui s'occupent plus des écosystèmes marins. Et la physique, on s'occupe plus de l'océan comme un milieu, donc un milieu liquide et dans lequel il y a des courants. Moi, je m'intéresse plus particulièrement aux courants.
On y reviendra tout à l'heure. Il y a forcément 20 scientifiques dans le Haut Conseil. Il ne peut pas y en avoir plus parce que toutes les disciplines ne sont pas représentées, j'imagine.
Alors, ce conseil a été mis en place à l'initiative de la région Bretagne et ils ont souhaité donc donner deux missions à ce conseil. Une mission d'avis sur les politiques publiques régionales et une mission autrement de diffuser la science et de auprès donc des acteurs, des collectivités et des élus et auprès du public en général. Alors on n'a pas vocation à être diffuser la science au public aussi bien que le font ce qu'on appelle les CSTI, je ne sais pas si...
Les petits débrouillards.
Les petits débrouillards, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment le métier, le rôle, mais on a vocation aussi à aider, à supporter cette mission. Mais pour la mission de donner des avis sur les politiques régionales, il y a d'autres groupes en France et on est les seuls avec le GREC, donc le groupe régional Île-de-France, qui a avoir ce type de mission. Et c'est vrai que ça suppose un certain formalisme. Donc ce chiffre de 20, en fait, a été arrêté. On a des statuts, on a un règlement intérieur. Et donc voilà, on a acté le chiffre de 20.
Mais les disciplines peuvent changer. Enfin, si par exemple un scientifique sort, un autre peut rentrer.
On peut changer, on l'a déjà fait, puisqu'on a maintenant par exemple une spécialiste des sciences de gestion qu'on n'avait pas avant. Et aussi, on reconnaît que c'est vraiment pas assez. Et du coup, on a commencé à créer un réseau. Et donc, dans le réseau, on a déjà 28 membres, par exemple. Et tout chercheur, enseignant-chercheur qui le souhaite, peut devenir membre de notre réseau pour nous aider, en fait, dans ces missions et pour faire en sorte qu'on soit un groupe plus fourni et aussi, on l'espère, plus pérenne.
Un GIEC régional. En fait, vous disiez qu'il n'y en a que deux en France, c'est ça? Des équivalents?
Non, il y a des GREC en fait dans pratiquement toutes les régions, des groupes régionaux d'experts, mais ils sont très différents. Autant en Aquitaine, le premier a été créé par Hervé Le Treut en 2013, je crois, donc ça a déjà une longue histoire. Et c'est les scientifiques qui sont auto-organisés, qui ont fait une association. Et par contre, en Bretagne, il n'y avait rien. Donc voilà, ça a été créé à l'initiative du Conseil régional, donc ce qu'il faut saluer.
En 2022, donc assez récemment. Geneviève, les petits débrouillards s'appuient sur les travaux du Haut Conseil ?
Ah, complètement. C'est même notre source principale, à partir de laquelle, notamment, on va faire de la création pédagogique. Donc ça suppose d'abord de lire et de prendre connaissance, de comprendre. Et puis ensuite, de retraduire ça dans des jeux et des activités qui vont permettre aux personnes auprès de qui on intervient de s'approprier des concepts qu'il y aura à l'intérieur de cette littérature-là, oui.
Alors la série d'émissions porte sur l'adaptation au changement climatique, qui n'est pas forcément le sujet prioritaire du Haut Conseil. Enfin, vous, Anne-Marie Triguet, c'est le climat, enfin les changements climatiques en général, hein, le travail du Haut Conseil.
Alors, le travail du Conseil, comme on a aussi ce volet en fait avis sur les politiques publiques, l'adaptation, clairement, on peut dire qu'on a finalement deux priorités, la lutte contre le changement climatique et l'adaptation. Et du coup, oui, si l'adaptation, c'est très important pour nous.
Et alors justement, en 2019, avant même d'être créé, d'être né, en fait, votre groupe avait déjà critiqué la stratégie régionale d'adaptation au changement climatique. Qu'est-ce que vous aviez dit à l'époque ?
Alors, on ne l'avait pas dit en 2019 parce qu'on n'existait pas. On l'a dit en 2022 au moment de la création. Mais par contre, c'était un exercice, en fait, puisqu'on nous avait demandé un avis sur une stratégie assez ancienne, qui était la stratégie de 2019. Donc, on avait dit effectivement que c'était un peu déjà dépassé en 2022. Il y avait deux choses essentielles. Il y avait une chose qui était, il manquait un vrai diagnostic des vulnérabilités, parce qu'il faut savoir à quoi on doit s'adapter et où on a vraiment des efforts d'adaptation à faire. Et le diagnostic était très incomplet à l'époque. Alors la région est en train d'y remédier actuellement dans le cadre de la nouvelle stratégie qu'ils mettent en place.
Et c'est pas vous qui le faites spécialement, là, le diagnostic
On n'est pas armés pour faire ça,
d'accord,
nous.
Ouais,
c'est-à-dire qu'on est vraiment des chercheurs, des enseignants-chercheurs. On joue un rôle de conseil. Mais en fait, on a par ailleurs notre boulot de chercheur, enseignant-chercheur à plein temps. Et on fait ça, je dirais, en plus. Alors ça fait partie de nos missions, puisque tout chercheur, tout enseignant-chercheur a aussi dans ses missions le fait de faire de l'expertise et le fait de diffuser la science. Donc, ça fait partie de notre travail. Mais on ne peut pas y consacrer énormément de temps. Donc, c'est clair que ce genre de diagnostic, c'est fait par les services de la région, appuyés en général par des cabinets conseils.
Donc, il n'y avait pas de diagnostic. C'était quoi l'autre critique ?
Alors l'autre critique, c'était le problème que c'était une stratégie assez vague et qu'on ne voyait pas très bien comment elle allait se décliner, comment elle allait se mettre en œuvre. Alors c'est souvent le cas en fait de ces textes. Alors moi je dis ça en plus un peu naïvement parce que je viens d'une science qui n'est pas du tout celle-là, qui est l'océanographie. Mais enfin voilà, je retranscris ce que disent mes collègues qui s'y connaissent en politique publique. Et puis aussi, pareil, enfin, quand on voit les avis du Haut Conseil pour le climat au niveau national sur les politiques nationales, le problème c'est l'opérationnalité. C'est comment on va mettre ça en œuvre, comment ça va vraiment marcher.
Oui.
Et donc là, je pense que y a une volonté d'essayer de progresser. On va voir comment ça va progresser, puisque la nouvelle stratégie en fait sera sans doute votée à la fin de l'année 2026 ou début 2027.
Alors vous l'avez dit un petit peu déjà, mais comment est-ce que vous travaillez le Haut Conseil ? Enfin, j'imagine que vous ne pouvez pas travailler sur tout ce qui concerne le changement climatique. Donc, comment vous décidez des sujets ? Est-ce que c'est la région qui passe commande ? Comment ça se passe ?
En fait, on a décidé de travailler sur un rythme annuel et de produire donc par an un document qu'on appelle un bulletin, parce qu'on pense que ce n'est pas quelque chose de très ambitieux, ce n'est pas un gros rapport bien fourni avec plein de chiffres. Et puis, c'est notre production à nous, c'est-à-dire en tant que 20 scientifiques, voilà ce qu'on peut vous dire à partir de la connaissance qu'on a rassemblée. Et du coup...
Donc c'est quand même une sorte de méta-analyse, enfin, vous analysez la science par ailleurs, et puis
c'est ça, ouais.
Faites un résumé, une synthèse quoi.
Voilà, une synthèse. Et donc on a commencé le premier bulletin qu'on a publié en 2023, il y avait eu l'été 2022, donc vous vous souvenez, les incendies dans les monts d'Arrée, tout ça. Et donc c'était 2022 est-elle une année annonciatrice du climat futur ? Ça a bien marché, l'exercice nous a plu, et donc on a poursuivi, donc chaque année, et c'est nous qui choisissons le sujet du bulletin. En fait, on n'a jamais eu de suggestions sur ce plan-là, mais c'est quand même assez simple. C'est-à-dire, le deuxième sujet, ça a été le littoral, la Bretagne, région maritime. Le troisième, l'agriculture, sujet absolument inévitable en Bretagne. Et cette année, ce qu'on a souhaité, c'est que ce bulletin soit sur changement climatique et société. C'est-à-dire que ce soit vraiment qu'on mette à l'honneur les sciences humaines et sociales et qu'on montre comment les sciences humaines et sociales permettent d'apporter de la connaissance et de servir à alimenter les réflexions des régions et des territoires.
Et là, en l'occurrence, je crois que la conclusion, c'était que ça renforçait les inégalités, c'est ça, non ?
C'est un sujet à surveiller sur plusieurs plans, sur le plan des transports ou le plan de l'impact du changement climatique sur la santé, comment on s'adapte, que sur beaucoup de points, il faut vraiment veiller à ne pas renforcer les inégalités au niveau des territoires.
Et est-ce que la région vous demande des critiques plus précises sur certaines de ces politiques qu'elle veut mettre en place, avant de les mettre en place ou après en évaluation ?
Alors ça, c'est un gros travail en fait. On s'est demandé au début, donc on a rendu un avis, deux avis, trois avis, on a fait plein d'avis, mais on s'est dit, à quoi ça sert de faire des avis ? Donc on a commencé à vouloir essayer de suivre un petit peu ce qui se passe après. Et en fait, moi encore une fois, je suis pas experte en sciences politiques, ça me semble très compliqué. Parce qu'en fait, ce sur quoi on a donné des avis, c'était souvent ce qu'ils appellent des stratégies. Alors, c'est des choses un peu surplombantes, etc. Et après, le travail vraiment au jour le jour des services ou la façon dont ça percole, c'est pas très clair pour nous. Et alors, la région aussi a fait ce constat que c'était peut-être pas là où on pouvait être le plus utile. Et donc là, pour la construction de la stratégie d'adaptation, ils nous ont proposé de participer à des ateliers. Et donc, de participer à la construction. Et pour le moment, je dirais que le bilan a été plutôt positif, c'est-à-dire qu'ils ont fait des ateliers sur les différents secteurs, donc sur l'eau, sur la biodiversité, sur le tourisme, sur l'agriculture.
Donc vous étiez dedans, vous, du Haut Conseil pour le climat.
Voilà, on a cherché parmi les 20, là, qui était volontaire pour suivre tel atelier. Donc on n'a pas réussi à les suivre tous, parce qu'on n'est pas toujours très disponible. Mais certains des membres ont suivi au moins, je dirais, 6 ou 7 ateliers.
Et qui d'autre, sinon, dans les ateliers ?
Alors, ils appellent des spécialistes du secteur, par exemple. D'accord. Donc, ils appellent, en fait, des représentants professionnels, des représentants d'associations.
Donc c'est quand même des ateliers experts, quoi. Ils ne prennent pas juste n'importe quel
citoyen. Non, d'accord. C'est des ateliers experts. Okay. Donc, par exemple, moi, j'ai participer à un atelier sur la forêt, je dois dire que j'étais la moins experte certainement de tout l'atelier, mais il n'y avait pas eu quelqu'un qui était plus expert sur la forêt qui pouvait y aller ce jour-là, donc ça s'est trouvé comme ça. Mais on s'est concerté après et dans l'ensemble, on a tous été satisfaits de notre participation et on a eu l'impression de pouvoir apporter un message.
Ah oui. Qu'est-ce que vous avez proposé, par exemple ?
Beaucoup de nos messages portaient sur le fait sur la difficulté de réfléchir en silo. Et on reconnaît que c'est difficile, quoi, parce qu'on ne va pas mettre tout le monde autour de la table pour parler de tout. Mais un sujet qui est revenu, par exemple, c'est où est-ce qu'on parle du bocage ?
Ouais.
Alors, en Bretagne,
est-ce que c'est dans la forêt ou pas ?
Ouais. Devinez dans quel groupe ils l'ont mis.
Alors, j'aurais dit dans l'agriculture, évidemment, mais bon, non, ce n'est pas dans l'agriculture.
Non.
Alors, je ne sais pas, l'eau, peut-être ?
Non.
Bon. Non, dites-moi.
Alors, ils l'ont mis dans la biodiversité.
Ah oui, c'est pas idiot, hein, mais c'est un peu le problème.
Mais pourquoi, pourquoi ? Alors, en fait, moi, j'étais dans le groupe forêt. Alors, le groupe forêt dit, mais pourquoi ils ont mis le bocage dans la biodiversité ? Oui. Et ils ont conclu que, de la forêt, parce que c'est des arbres. Non, il vaudrait mieux le mettre dans l'agriculture, parce que comme ça, au moins, il serait temps que les agriculteurs apprennent à gérer le bocage. Donc, c'est ce qui a été dit dans l'atelier. Je ne me souviens plus qui l'a dit. Du coup, les collègues qui ont fait l'atelier biodiversité se sont étonnés, effectivement, que le bocage soit dans la biodiversité. On dit aussi, non, il vaudrait mieux le mettre dans l'agriculture.
Mais
donc, en fait, c'est la question de ces réflexions transverses.
C'est ça.
Et c'est pareil, en fait, pour l'eau, c'est pas indépendant de l'urbanisme, par exemple. Parce qu'en fait, la question de l'eau, il faut pas oublier la question des sols.
Mais non.
Les sols sont-ils perméables, imperméables, etc. Donc, c'est pas indépendant de l'urbanisme. Donc, on se dit que si on peut peut-être avoir un apport au sein de la réflexion, ça va être d'aider au décloisonnement et de faire en sorte que les différents secteurs se parlent entre eux. Mais on reconnaît que c'est quelque chose de difficile. Hein. On n'a pas de recette toute faite.
La complexité, comme dans votre spécialité dont on va reparler. Et juste pour terminer sur la stratégie d'adaptation au changement climatique de la région, elle est publiée, cette stratégie, ou elle est encore en cours d'élaboration
Elle est en cours d'élaboration, donc on sera aussi appelé pour les processus suivants. Donc là, on parlait un peu justement du diagnostic de vulnérabilité. Et puis, à partir de septembre, on va parler un petit peu plus de quels doivent être les objectifs principaux. Et ensuite, il va y avoir quels vont être les objectifs un peu plus concrets. Donc voilà, on va suivre ce processus et puis on tirera un bilan après. Mais On est très heureux, je dirais, d'avoir l'occasion d'expérimenter ces modes de fonctionnement et de pouvoir, en tant que scientifique, être présent dans des processus ou dans des instances où, par ailleurs, on ne serait pas spontanément convié ou auquel on ne participerait pas spontanément.
Oui, même si ce n'est pas directement votre spécialité, comme la forêt pour une océanographe. Bon.
Voilà, là, c'était pas idéal.
Ouais. Donc,
c'était
oui, parce que idéal. Votre légitimité est moindre, voilà. J'imagine.
Je dirais, ouais. Ouais. Sur l'atelier agriculture, c'est un collègue qui enseigne à Agrocampus, qui lui était parfaitement compétent sur le... Pareil pour l'eau, c'était un collègue parfaitement compétent qui y était, pour la santé aussi. Donc voilà, on a pu apporter des compétences scientifiques quand même dans plusieurs domaines.
Geneviève, de mémoire de petit débrouillard, quels sont les bulletins, les sujets du Haut Conseil pour le climat breton qui ont marqué, enfin, qui ont beaucoup servi pour les outils des petits débrouillards?
En particulier sur celui sur l'année 2022, en fait, qui explorait dans quelle mesure ce qui s'est passé cette année-là pouvait préfigurer dans quel régime de croisière nous allons nous retrouver.
Est-ce que les étés, c'est ça? Est-ce que les étés 2022 se ressemblent à,
voilà, ouais,
aux futurs étés?
Et notamment, toutes ces questions qui vont être liées à l'eau, aux canicules, aux effets sur l'agriculture. Donc ça, c'est quelque chose dont on s'est saisi en allant piocher effectivement dans ce rapport-là, mais en allant chercher beaucoup, beaucoup d'autres sources. Également parce que notre objectif... On va se trouver en difficulté pour expliquer, finalement, avoir un point de vue très, très global. Mais par contre, le but de nombreux ateliers qu'on va mener, c'est de permettre aux gens qui y participent de toucher du doigt de quelle façon leur vie va se trouver affectée. Le but n'étant absolument pas de paniquer, puisqu'on parle également beaucoup de solutions, en fait, notamment de solutions d'adaptation. Alors, on ne parle pas que de solutions d'adaptation, puisque la première mesure d'adaptation, et on n'aura jamais assez de le répéter, c'est l'atténuation, parce qu'on ne peut s'adapter que dans une certaine mesure. Mais donc, comment se réapproprier des outils, d'abord à l'échelle individuelle, mais aussi de réussir à penser en collectif, parce que la grande difficulté de ces crises-là, puisqu'en plus elles sont toutes liées, c'est que on n'en sortira pas sans des mesures collectives, des choses qui vont embarquer la société dans son entier. Ça ne peut pas fonctionner, en fait. Les petits gestes, c'est hyper important. Les actions individuelles sont importantes, c'est indiscutable. Mais ça ne suffit pas, et loin de là.
Mais pour autant, c'est intéressant, alors on parle de global, mais c'est intéressant quand même que le Haut Conseil pour le climat soit, que scientifique pour le climat soit un Haut Conseil breton, enfin Anne-Marie Tréguier, c'est vrai que j'imagine que ce que vous publiez ne ressemble pas tout à fait à ce que publieraient d'autres régions. Enfin, je ne sais pas si vous comparez, vous vous amusez à comparer, mais y a des différences sans doute.
Ah bien sûr, puisqu'en fait, on choisit nos priorités en fonction de ce qui est important pour la région. Alors après, il faut voir quand même qu'on choisit aussi nos priorités en fonction de ce qu'on sait, c'est-à-dire de notre connaissance scientifique en tout. Et par exemple, le deuxième poste d'émission en Bretagne, c'est les transports. Et en fait, on n'a aucun spécialiste du transport au sein du Haut Conseil parce qu'il n'y a pas de labo en Bretagne qui travaille spécifiquement sur la question des transports. Et ça, je dirais que c'est un trou dans la raquette.
Il y a le Labers qui travaille sur les mobilités en sociologie.
Alors,
mais c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, c'est ça. Mmh. Oui, effectivement. Je ne devrais peut-être pas dire ça. Je pensais en termes de les transports dans leur globalité. Mmh. Mais c'est vrai que oui, heureusement. Donc on a un article cette année, par exemple, dans le bulletin sur les transports, justement écrit par les collègues du Labers.
Et le premier secteur d'émission, c'est l'agriculture pour la Bretagne?
Oui.
Oui.
Mmh. Oui.
Geneviève? Oui.
Et c'est certain qu'on a un gros problème de modèle agricole qui, à son tour, implique énormément de paramètres différents. C'est-à-dire que, imaginez qu'on va claquer des doigts et puis voir les agriculteurs et agricultrices bretons changer comme ça brutalement du jour au lendemain en rang bien ordonné, ça n'est juste pas possible. Et donc là aussi, il y a beaucoup de travail qui va impliquer les agriculteurs et les agricultrices, mais encore une fois, la société dans son entier, parce qu'il y a des choses qui ne seront plus possibles, et c'est des choses qui n'ont pas une bonne acceptabilité sociale, mais ça n'empêche pas qu'il va falloir en passer par là, sinon nous en paierons de très lourdes conséquences.
Anne-Marie Tréguier, les représentants des sciences humaines du groupe, au Conseil, comment ils se sentent justement? Est-ce qu'ils ont l'impression qu'on prend bien en compte aussi leur matière, leur discipline, cet aspect-là purement humain
Évidemment, c'est à eux qu'il faudrait poser la question.
Sans doute.
Mais j'espère que oui, j'espère que ça se passe bien. Je crois que on est vraiment un groupe très, très intéressant, je pense, où on est tous très respectueux des disciplines les uns des autres.
Bah, oui, j'en doute pas, mais est-ce qu'ils ne sont pas moins écoutés parce que c'est des sciences molles, entre guillemets? Je fais un raccourci dans ma question, mais...
Non, là, je suis désolée, il faudrait vraiment leur poser la question à eux.
Vous ne pouvez pas répondre
à
leur
place. Moi, j'espère, par exemple, que les petits débrouillards, de temps en temps aussi... Transmettre les apports des sciences humaines et sociales.
Alors, complètement, oui. On a même plusieurs activités qui traitent justement de ces questions, comme des choses climat solidaire, des débats. Ça fait partie intégrante du travail qu'on peut faire auprès des publics. Et c'est assez indispensable parce qu'une fois qu'on a posé un constat sur le réel, ensuite, la question qui se pose, c'est qu'en faisons-nous collectivement? Et là, on est complètement dans le champ des sciences humaines et sociales. Par contre, j'ai quand même le sentiment, après c'est peut-être au doigt mouillé, mais que le regard qui est posé par le grand public sur les sciences humaines et sociales a quand même pas mal évolué sur les 10-15 dernières années. Autant il y a 10-15 ans en arrière, il y avait quand même... ça allait pas jusqu'au dénigrement, non. Mais par contre, un regard assez condescendant, c'est pas des vraies sciences. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens ont un vrai intérêt sur ce que peuvent raconter les différentes disciplines qu'on va retrouver dans ces champs-là. Ouais.
Écoutez, nous allons le voir là, lors de notre forum le 19 mai, en fait. Donc le soir, il y a une soirée grand public organisée par le Haut Conseil Breton pour le Climat.
Ce que vous faites régulièrement d'ailleurs.
On fait ça tous les ans, Et donc là, ce sont trois collègues de sciences humaines et sociales qui vont intervenir. Et donc j'espère que le public sera nombreux et montrera à cette occasion son intérêt pour les apports de ces sciences.
Et ce sera quoi le thème officiel de la soirée?
Alors ce sera changement climatique et société, je ne me souviens plus l'intitulé qu'on a mis. On aura un spécialiste des sciences politiques, donc une sociologue du Labers, Nicole Roux, et puis Alain Soma qui est psychologue sociale.
Oui, et vous avez des psychologues sociaux,
psychologue social.
C'était une question que je voulais poser. Alors vous êtes Anne-Marie Tréguier, océanographe physicienne, donc vous étudiez les courants, vous l'avez dit tout à l'heure, alors c'est très complexe les courants, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous regardez concrètement, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'effet que ça aura sur le climat, les changements?
Alors en fait, un courant, ça peut être stable ou instable. Quand on regarde un filet d'eau, en fait, une canalisation ou dans une rivière, en fait, soit l'eau, finalement, elle coule gentiment dans le sens, soit c'est instable, donc ça va faire des méandres, ça va faire des petits tourbillons, etc. Donc, moi, en fait, toute ma carrière, je me suis plutôt intéressée à cet aspect-là, le fait que le courant est instable, qui fait des méandres, qui fait des petits tourbillons. Et... Donc je m'intéresse plus particulièrement à en quoi le climat est différent ou la réponse de l'océan au climat est différente parce que les courants, en vrai, quand on les regarde, ils font des méandres et des tourbillons plutôt que d'être juste des longs fleuves tranquilles. Quoi.
Donc vous, c'est les courants marins
marins,
oui. Oui, oui, vous ne regardez pas ce qui se passe en haute atmosphère, si ça a une importance.
Non.
Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous avez constaté? Enfin, qu'est-ce que les scientifiques comme vous ont constaté? Est-ce qu'il faut s'alarmer? De quoi est-ce qu'il faut s'alarmer?
Alors, il faut s'alarmer de toute manière parce que le climat change et ça veut dire que l'océan change. Et comme l'océan est quelque part donne un grand volant d'inertie au climat de la Terre. En fait, l'océan a absorbé 90% de l'excès de chaleur emmagasiné sur la planète. Donc c'est grâce à ça que la planète est encore vivable, hein, parce que si c'était pas parti dans l'océan, ce serait Vénus. Peut-être pas, mais
400 degrés, allez, hop.
ce serait totalement invivable. Donc l'océan joue ce rôle-là, mais ça veut dire aussi que, enfin, ce que fait l'océan a un rôle fondamental sur le climat. Donc, on observe, je dirais, l'océan et on a beaucoup d'inquiétudes, oui, sur la manière dont il pourrait, par exemple, l'océan qui jusqu'à présent a aussi absorbé beaucoup de CO2, ben, s'il devient plus stratifié, ce qui veut dire que la différence entre l'eau légère au-dessus et l'eau lourde au fond, puisqu'il y a de l'eau qui est plus lourde, plus dense en dessous, et l'eau légère reste au-dessus parce qu'elle est plus légère. Mais si cette différence diminue, du coup, peut-être que le CO2 va avoir plus de mal aussi à pénétrer. Si l'océan retient moins de CO2, ça va renforcer le réchauffement. Enfin, il y a plein de choses qui se passent. Et puis, donc, il y a aussi la fameuse circulation méridienne, là, qu'on appelle AMOC, qui est toujours un sujet aussi.
Qui ralentit peut-être, mais on n'est pas. C'est pareil, il y a encore débat au sein de votre communauté scientifique. Le ralentissement, on ne sait pas trop, en fait, c'est ça.
Oui, alors ce qui fait consensus, c'est que le changement climatique va causer un ralentissement au cours du siècle. Ce qui fait débat, c'est est-ce qu'on a déjà observé le début du ralentissement ou pas ?
Là, on manque de mesures, quoi, de mesures anciennes,
les mesures sont trop récentes. Donc, dans 10 ans, je pense que voilà, on saura plus clairement. Et en fait, le ralentissement, on est dans une période où les modèles, les projections climatiques donnent le début du ralentissement, en fait. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de désaccord entre les modèles et les observations sur ce qui se passe maintenant.
Mais donc, on ne sait pas à quelle vitesse il ralentit, c'est ça ?
Ben voilà, en fait, du coup, parce que comme on ne l'a pas encore beaucoup observé, et puis qu'après, il y a des modèles qui ne ralentissent pas beaucoup et des modèles qui ralentissent beaucoup, on ne peut donner qu'une fourchette très large de... autour de... enfin, dans le dernier rapport du GIEC, je crois qu'on disait autour de 35-40%, quelque chose comme ça. Mais c'est une fourchette assez large.
On verra.
Donc, y a une étude récente là, qui dit que c'est plutôt 50%. Donc, bon, voilà, affaire à suivre.
Dans 10 ans, vous reviendrez faire une émission. On va s'arrêter là parce que c'est déjà la fin. Merci. Merci à toutes les deux. Et puis, on retrouvera encore une émission des Petits Débrouillards dans cette série d'émissions sur l'adaptation au changement climatique. Et ce sera dans un mois à peu près. Merci. Au revoir.